la libération de Mandela met fin en soi à 300 années de violence systémique. La transition qui s'ouvre après la libération de Mandela est ponctuée par une série de violences de la part à la fois des opprimés et des oppresseurs, mais aussi elle est ponctuée par un effort intensif de négociation et de dialogue qui aboutit à la mise en place en Afrique du Sud de l'une des constitutions les plus libérales au monde et à la fin donc de l'apartheid. Pour ce qui est du reste, nous continuons de vivre dans une société faite de très larges inégalités où, pour beaucoup de pauvres, les fruits de la liberté sont encore au-devant de nous. Les taux de criminalité sont très élevés, mais aussi l'espoir de changer la vie demeure, y compris chez les pauvres. Et donc je dirais que le défi dans les années qui viennent, c'est de répondre à ces aspirations.
Quand Mandela devient président en 1994, tout d'un coup la population noire retrouvait sa place en quelque sorte. Est-ce que c'est le cas dans les faits et comment est-ce qu'aujourd'hui les forces, enfin noir-blanc, s'équilibrent?
En 20 ans, on a quand même assisté à l'émergence en Afrique du Sud d'une classe moyenne noire extrêmement nombreuse qui dispose d'un pouvoir d'achat tout à fait substantiel. Et on a assisté également à la mise en place d'une série de politiques de réparation qui se traduisent par exemple par la construction de plus d'un million de logements pour les sans-logis, l'accès à l'eau potable, l'accès à la scolarisation, choses sans lesquelles la nouvelle citoyenneté sud-africaine serait vide de sens. Ceci dit, les écarts restent très grands entre les plus riches et les plus pauvres. La classe des riches n'est plus du tout une classe monoraciale. Ceci dit, le pouvoir économique dans son ensemble reste quand même aux mains de la minorité blanche. Le pouvoir politique, quant à lui, est fermement aux mains de la majorité noire. Et ce que l'Afrique du Sud essaye de faire, c'est d'intégrer la population blanche dans la nouvelle idée de la nation, tout en essayant de mettre en place des politiques de redistribution qui permettraient d'arriver à un niveau d'égalité plus ou moins relatif, et ceci sera une œuvre évidemment de très longue haleine.
Aujourd'hui, on pourrait qualifier la figure de Nelson Mandela d'intouchable. Ce besoin d'une figure de référence, précisément, c'est pourquoi? C'est parce que la nation est encore en train de se construire, ou est-ce que c'est le reflet de tensions qui règnent encore au sein de la société sud-africaine?
C'est le reflet de tensions, de divisions, de conflits qui prévalent encore au sein de la société sud-africaine. C'est cette dialectique à la fois de la cohabitation et des conflits potentiels qu'il faut gérer et que le gouvernement actuel s'efforce de gérer d'une manière qui ne soit pas explosive. Il faudrait, par exemple, mettre en place des politiques visant à améliorer le système éducatif dans ce pays. Parce que la mobilité sociale parmi les couches moyennes et pauvres et la lutte contre la pauvreté et la misère et les inégalités, elle passe en très grande partie par la formation adéquate des nouvelles générations. Il reste beaucoup à faire du point de vue de la santé. Beaucoup de gens ici sont malades, les hôpitaux sont en crise. On ne peut pas bâtir l'avenir avec des gens malades. Il faudrait tout un travail au sujet de la mise en place d'une économie qui ouvre la voie à la formation et au soutien aux petites entreprises. Les petites et moyennes entreprises sont les lieux qui permettent effectivement d'absorber les sans-travail de cette société, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Donc l'Afrique du Sud est un énorme chantier.